Alors je vous invite, frères et sœurs, en ce dimanche des rameaux, à lire ensemble un texte dans le livre de Zacharie, au chapitre 9. Zacharie, chapitre 9. Je vous propose de lire les versets 1 à 10. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 9. Parole de l'Éternel sur le pays de Hadrak. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamat, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon malgré toute leur sagesse. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues. Voici, le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer. Elle sera consumée par le feu. Ashkelon le verra et elle sera dans la crainte. Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira. Écron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza et Ashkelon ne sera plus habité. L'étranger s'établira dans Ashdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda. Et Écron sera comme les Jébusiens. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. Et c'est la raison pour laquelle tu dois être transportée, fille de Sion. C'est la raison pour laquelle tu dois pousser des cris de joie, fille de Jérusalem. Regarde, voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste. Il est victorieux. Il est humble. Et il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm. Je détruirai les chevaux de Jérusalem. Je détruirai les arcs de guerre. Tout cela sera retranché. Et il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de nous rendre attentifs maintenant. Nous voulons apprendre par ta parole, apprendre à discerner ta volonté et surtout, Seigneur, à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous voici, frères et sœurs, en terrain de connaissance. Suivant la tradition, nous venons de lire le récit du jour des rameaux. Nous aurions pu le lire tel qu'il se présente dans l'évangile de Marc, mais j'ai voulu replacer la prédiction de l'entrée de Jésus à Jérusalem dans son contexte. Je dis souvent à mes étudiants, prendre un texte, le sortir de son contexte pour s'en servir comme prétexte, c'est pas bon. Les sectes, c'est ce qu'elles font souvent. Elles prennent un texte, elles l'arrachent du contexte et elles s'en servent comme prétexte. Et j'ai voulu ce matin replacer le texte dans son contexte. L'arrivée de Jésus au mont des Oliviers. L'âne, le cortège qui se forme, les cris des gens, l'entrée dans cette ville de Jérusalem, tous ces détails, nous les connaissons. Nous avons même peut-être l'impression d'y être. Et nous sommes un peu comme des spectateurs invisibles parmi les disciples qui crient leur joie. Mais justement, que crient-ils ? Béni soit le règne qui vient. Béni soit le règne de David, notre père, c'est-à-dire notre ancêtre. Les disciples sont en train de saluer Jésus en successeur de David, c'est-à-dire en roi d'Israël. Et il me semble que l'essentiel de cette scène est donc là, dans ce cri qui reconnaît dans la personne de Jésus non seulement le Seigneur, mais le roi. Le roi qui vient pour dominer sur les hommes. Mais une lecture attentive du texte nous montre un autre aspect de l'essentiel. Et c'est un tout petit détail. C'est la monture sur laquelle Jésus a pris place. Ce n'est pas un détail qui est dérisoire, parce que précisément la présence de cet animal nous renvoie au texte que nous avons lu tout à l'heure, au texte de Zacharie. Zacharie qui, 400 ans avant Jésus-Christ, annonce de son côté la venue du Messie, la venue d'un roi qui va faire son entrée à Jérusalem monté sur un âne. Et la coïncidence n'est pas le fait du hasard. Le rédacteur du récit des évangiles, que nous prenions Marc par exemple, au chapitre 11, pensait très très certainement à Zacharie. Et pour comprendre cette scène des rameaux, nous ferions bien de nous rapporter nous aussi au prophète, parce qu'il va éclairer pour nous l'évangile. L'évangile de Marc ne cite pas explicitement Zacharie. Matthieu le fait. Matthieu le cite. Mais il ne cite que la moitié du verset. Voici que ton roi vient à toi, il est humble, il est monté sur un âne, le petit d'une bête de somme. Un demi-verset est seulement une petite partie du message de Zacharie. C'est la raison pour laquelle, pour bien comprendre, il faut lire ce qui vient avant et ce qui vient après. Et c'est ce que nous avons fait dans la lecture de tout à l'heure. Nous avons vu que le message du prophète Zacharie s'adresse à une série de localités situées en dehors du territoire d'Israël. D'abord, à la ville de Tyr. Tyr est à l'époque une grande cité commerciale. Elle se trouve située en bord de mer, et Tyr, c'est le plus grand port à cette époque. Cette parole s'adresse aussi à Sidon, à Ashkelon, à Gaza, à Ashdod. Bref, on l'aura compris, ces textes s'adressent aux Philistins, puisque toutes ces villes sont situées dans le pays des Philistins. Ce peuple, qui, vous le savez, est venu des îles de la Crète, c'est un ennemi farouche d'Israël, et ça l'a été pendant des siècles. Et Zacharie reproche à ces villes et à leurs habitants leur paganisme. Il reproche leur idolâtrie. Et Zacharie leur prédit la ruine. La ruine qui se réalisera. « Je t'en veux, Tyr, dit Ézéchiel, de la part de Dieu. Je t'en veux. Viendra pour toi les jours de malheur. Il ne restera pas sur toi pierre sur pierre qui ne soit tombée. On prendra tes pierres, on les jettera dans la mer, et je ferai de toi un rocher nu sur lequel les pêcheurs étendront leur filet. » Il a fallu attendre Nebuchadnezzar pour faire le siège de la ville de Tyr. Après avoir entouré la ville de Tyr, Nebuchadnezzar va fondre sur Tyr. Mais les habitants de Tyr qui ont des bateaux ont pu se réfugier sur une petite île qui se trouve juste en face. Nebuchadnezzar, n'ayant pas de bateau, ne peut pas conquérir cette île. Par contre, ce qu'il fait, et c'est la première réalisation de cette prophétie, il va détruire Tyr. Il faudra alors attendre Alexandre le Grand, qui lui non plus n'a pas de bateau, mais qui a pour lui d'être jeune et intelligent. Comme il veut conquérir cette île, sans le savoir, il va réaliser la deuxième prophétie. Il va prendre les pierres de Tyr, les jeter dans la mer et faire une digue. Et c'est ainsi que la ville de Tyr sera prise. Il ne restera pas pierre sur pierre. On jettera tes pierres pour les mettre dans l'eau, dit Ézéchiel. Je ferai de toi un rocher nu, tu ne seras plus jamais rebâti. Je suis allé moi-même à Tyr avec un groupe et nous nous sommes posé la question, pourquoi ne pas avoir reconstruit ? Il y a tout autour de Tyr 7 sources d'eau pure. Le Club Med aurait pu faire un hôtel magnifique. Encore aujourd'hui, c'est un rocher nu. Il y a à côté des ruines de Tyr un tout petit village où il y a quelques pêcheurs. Et les pêcheurs utilisent les anciennes colonnes de Tyr pour faire sécher leurs filets. Je ferai de toi un rocher nu. Tu ne seras plus jamais rebâti. Et les pêcheurs viendront faire sécher leurs filets sur tes ruines, dit l'Éternel. Remarquable parole de Dieu qui se réalise à la lettre. Et la chute de ces cités au nord et à l'est d'Israël a pour résultat de procurer la paix à Israël. Le roi annoncé brise les chars de guerre, il brise les arcs, Les armes ne sont plus nécessaires puisqu'Israël n'aura plus à se défendre contre ses ennemis. Pour lui, ce sera la paix, ce sera la sécurité. Et Zacharie dit bien, plus jamais aucun tyran ne t'accablera. La fin définitive des guerres va très bien avec l'âne sur lequel Jésus est monté. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans l'Antiquité biblique, le cheval, c'est la monture de guerre. Les guerriers sont montés sur des chevaux. Et ce sont des chevaux qui tirent les chars de guerre à l'allure foudroyante, sur lesquels un tireur debout est à côté du conducteur de char et lance ses flèches sur les ennemis. Tandis que l'âne n'est d'aucune utilité pour la guerre. L'âne, c'est une monture pacifique. Les rois tels que Salomon montent sur un âne au moment de leur couronnement. Et le roi annoncé par Zacharie est monté sur un âne pour signifier qu'il apporte la paix, que son règne est un règne de paix. Et Zacharie prévoit que ce roi régnera sur un territoire extrêmement étendu, depuis l'Euphrate jusqu'à la frontière sud du pays d'Israël, c'est-à-dire à peu près jusqu'au Nil. Le prophète Zacharie, voilà le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu pour son peuple. Un projet de paix, un projet de sécurité. Un projet destiné à se réaliser dans l'avenir. Un avenir qu'on ne précise pas. Peut-être que Zacharie pense à une réalisation très lointaine, à un futur éloigné, peut-être au-delà de notre histoire humaine. Mais ce monde de paix, cette domination universelle du roi, Zacharie ne les situe pas quelque part dans le ciel, en dehors de notre monde. Les pays qui sont cités ici sont des pays qui sont bien réels. Les villes sont des villes qui sont bien réelles. On a retrouvé, en faisant des fouilles, on a retrouvé ces cités. Et le projet que Dieu a est donc un projet de paix qui concerne bien un monde concret. Un monde matériel, humain, ce monde que nous vivons. Et Zacharie, pas plus que le reste de la Bible, ne connaît cette notion de ciel désincarné par-dessus les nuages. Le projet de Dieu embrase notre monde, notre terre. Et nous devons, je crois, garder en mémoire ce passage de Zacharie, pour comprendre cette scène des rameaux. L'âne sur lequel Jésus monte, le cri des disciples qui saluent Jésus comme roi, tous ces détails évoquent Zacharie. Pas seulement le demi-verset qui parle de l'âne et du roi, mais aussi l'ensemble du message. Et cet arrière-plan donne tout son sens à l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Et pour ma part, je pense que Jésus, à ce moment-là, a dans la tête ce texte de Zacharie. Quand il demande à ses disciples d'aller à la ville, d'aller lui chercher un âne, Jésus veut rattacher son geste au prophète. Il veut signifier par là qu'à travers lui, la royauté se manifeste. Une royauté qui ne s'exerce pas seulement à Jérusalem, la ville où Jésus va faire son entrée, c'est une royauté universelle. Elle s'étend au monde entier et elle n'a pas de limite. Et Jésus affirme cette royauté, cette domination universelle de Dieu. Et la scène comprend trois acteurs. Et c'est avec cela que je voudrais terminer. Il y a Jésus qui est au centre. Il y a les deux disciples qui vont chercher l'âne au village le plus proche. Et enfin, il y a la foule. La foule qui escorte Jésus et qui crie leur joie. Et ce récit n'a pas simplement un récit historique pour nous rappeler une belle journée de fête. Ce récit, frères et sœurs, il est écrit pour chacun d'entre nous. Ce récit, il est écrit pour toi et pour moi. Parce que c'est un récit qui nous invite à trouver notre place dans la foule, parmi les disciples, pour que nous puissions reconnaître avec eux en Jésus le roi, celui qui est envoyé par Dieu pour nous apporter la paix, pour nous donner la paix. Seigneur Christ, dans ma vie, tu seras toujours le premier servi. C'était le mot d'ordre de Jeanne d'Arc. Et elle terminait cette citation en disant « Seigneur Christ, tu seras dans ma vie toujours le premier servi. » Et elle terminait en disant « Et les autres passeront après. » S'il en reste. En montant sur un âne, Jésus prend aussi sur lui l'annonce de la paix par Zacharie. Jésus est celui qui apporte la paix. Jésus est celui qui apporte cette paix, qui, je le crois, ne concerne pas seulement un ciel supposé. Elle n'est pas pour après la mort. Cette paix que Jésus apporte est pour notre monde actuel. Elle est pour chacun de nous ce matin. Ce qui veut dire que nous, les disciples de Jésus, nous avons premièrement à trouver cette paix, à la recevoir, mais aussi à la travailler. Nous sommes appelés à travailler pour la paix, à être des bâtisseurs de paix. Heureux, dit Jésus, ceux qui procurent la paix. Et donc ce récit du jour des rameaux nous invite à devenir des artisans de paix. C'est en chacun de nous, en toi, en moi, en chacun de nous que Jésus-Christ doit mettre sa paix. C'est en chacun de nous que Jésus-Christ doit régner pour qu'en nous le message de Zacharie devienne une réalité qui est vécue. Je dis bien une réalité vécue, pas seulement un moment furtif. Car, rappelons-nous, ces gens qui crient « Hosanna !» ces gens qui crient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» ce seront les mêmes qui, dans moins d'une semaine, crieront « Crucifie-le ! Crucifie-le !» ce qui montre qu'ils n'avaient rien compris. Alors j'ai une simple question pour toi ce matin. As-tu réellement compris ce que Dieu veut t'apporter? Si tu ne l'as pas encore compris, ne te fais pas de soucis. Il est toujours temps pour toi de le comprendre. Le tout, c'est de le vouloir. Et si tu le veux, alors nous sommes là. Nous sommes là pour répondre, pour combler ce vide. Parce qu'il y a bien un vide en toi, un vide que Dieu veut apporter, un vide que Dieu veut reboucher. Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Que ce texte soit pour toi, pour moi, un texte qui va prendre écho dans ta vie. C'est en chacun de nous que Jésus veut mettre sa paix. Amen. Nous prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier pour la joie que tu nous donnes de te connaître. Te remercier pour la paix aussi que tu nous donnes. Et nous voulons nous tourner vers toi ce matin, Seigneur. En te demandant, toi qui connais chacun de nos cœurs, s'il y a une personne ce matin parmi nous, une personne qui ne te connaît pas, nous te prions, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses lui montrer qu'elle a besoin de toi, que sans toi, cette personne est perdue. Montre-lui par ton esprit, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre pour toi. Nous voulons vraiment être des bâtisseurs de paix. Nous voulons vraiment être de ceux qui procurent la paix. Alors, Seigneur, fais de nous des artisans de la paix, pour la gloire de ton nom et en Jésus-Christ. Amen. Amen.